Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur FM 43. Alors, parce que élever et préparer son enfant au monde d'adulte, c'est l'essence même du rôle des parents. Il arrive parfois que des mères et des pères soient dans l'incapacité d'assumer pleinement cette fonction parentale, confrontés à des difficultés personnelles, voire même multifactorielles. Soutien matériel, éducatif et psychologique aux jeunes de moins de 21 ans et à leurs familles confrontées à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre, telle est la définition que Christiane Mosnier donne à la protection de l'enfance. Vice-présidente en charge de l'enfance, Christiane Mosnier nous décrira plus largement le rôle du département dans cette mission. Alors pour répondre à cette mission, justement, il existe un service dédié, l'ASE. Trois lettres pour décrire tout un système d'accompagnement de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, trois lettres parfois décriées. Pour y remédier, Valérie Kremski, directrice générale adjointe à la vie sociale, nous présentera ce dispositif. Au final, 1250 enfants ont été accompagnés par le département en 2019. 50 agents œuvrent pour la protection de l'enfance. 50 agents œuvrent pour de multiples dispositifs, car rappelons-le, la priorité est de faire avec les parents et non pas sans les parents. Directrice déléguée à l'enfance, Josiane Coutarel, nous en dira plus. Mais avant de faire, avant d'agir, il faut relever, alerter. Sandrine Bonnefoy-Cortial recueille ces alertes pour les départements, les centralise et les transmet. Elle recueille et traite les IP, comme on dit dans le jargon, ou bien informations préoccupantes, décryptage. Après l'alerte donnée et relayée, l'heure est à l'évaluation, la prise en charge, soit à domicile, soit en foyer d'urgence de l'enfance, en famille d'accueil. Il n'existe pas un type de mesure éducative, mais plusieurs. Mathieu Pereira, psychologue de l'ASE, Valérie Rabérin et Séverine Adrien reviendront sur leur collaboration quotidienne pour offrir le meilleur suivi possible à ces enfants de l'ASE et leurs familles, partie prenante du projet éducatif. Enfin, qu'arrive-t-il à ces enfants de l'ASE une fois majeurs, à l'heure où ces systèmes administratifs sont remis en cause par le plus grand nombre? Qu'en est-il de l'avenir de la protection de l'enfance? Problème de moyens ou répartition inégale? Tant de questions que nos invités tâcheront d'y répondre dans les meilleures conditions possibles. Prévenir et répondre aux problèmes de l'enfance en danger, tels sont les objectifs de cette émission, tels sont les objectifs de cette campagne de communication portée par le département de la Haute-Loire. Donc merci d'être là et surtout restez à l'écoute de FM 43, 17h à l'antenne. Bienvenue. Alors Christiane Mosnier, vous êtes conseillère départementale en charge de l'enfance et de la famille. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur FM 43. Alors déjà, donc, comme je le disais, vous êtes conseillère départementale en charge de l'enfance et de la famille. En quelques mots, comment vous pourriez le présenter?
Alors tout d'abord, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui a été initié vice-présidente enfance famille par notre président Jean-Pierre Marcon, puisque avant 2015, il n'y avait pas de vice-présidence enfance famille. Ça a été un souhait fort du président. Et au-delà de ça, c'est une priorité intégrante de la feuille de route. Donc, disons, les élus prennent conscience désormais de cette thématique qui avant était peut-être quelque chose dont on n'osait peut-être pas trop parler. Donc, mon rôle à moi, c'est d'accompagner cette politique-là sur le département et bien sûr avec les équipes qui travaillent sur cette thématique-là.
Alors, quelles sont vos missions au quotidien? Comment agissez-vous en faveur de cela au quotidien?
Alors, là, pareil, je reviendrai sur le fait que c'est une mission qu'on a souhaité développer parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau du département, on avait beaucoup d'enfants placés et on s'est posé la question pourquoi en Haute-Loire, on avait beaucoup d'enfants placés. Donc on a voulu mettre cette politique-là sociale en lumière. Donc c'est renforcer la prévention pour les familles et mieux répondre aux problèmes de l'enfance en danger. Donc effectivement, c'est d'intervenir chaque fois qu'il y a des problèmes dans les familles. Mais au-delà de notre intervention, c'est d'accompagner les familles, de faire de la prévention avant même le placement. Donc c'est quelque chose sur lequel on a voulu travailler. qui a nécessité un gros travail avec les équipes et surtout par les équipes. Avec les élus aussi, les élus se sont impliqués dans cette démarche, dans cette réflexion. Et donc suite à ça, il y a eu effectivement donc, des réunions de travail. Ça implique des remises en question également. Donc ce n'est pas toujours facile parce que quand il s'agit de travailler autrement, ben, on peut avoir du mal à accepter le changement. Mais je crois que tout le monde a été accompagné pour que les choses se passent au mieux. En tout cas, au bout de 5 ans, on va dire qu'il y a eu un travail donc, d'état des lieux, une réflexion pour savoir comment on pouvait travailler autrement. Et aujourd'hui, on est dans la phase d'action donc avec les équipes du département pour mettre en application donc, les solutions, en tout cas la façon qu'on a souhaité mettre en place pour travailler avec les jeunes et surtout sur la thématique de la prévention en matière de santé, la prévention en matière de rupture avec le système. Et quand on dit prévention, et vous l'avez dit en préambule aussi, c'est le soutien aux familles. Donc c'est important pour nous au niveau du département.
Prévenir, c'est un vaste mot. Comment vous prévenez justement concrètement ?
Prévenir, donc c'est accompagner, en tout cas c'est détecter. Détecter, c'est pour ça que... On a souhaité renforcer, par exemple, le travail de la PMI dans le cadre donc qui se pratiquait autrefois, d'ailleurs.
PMI, pardon.
Protection maternelle et infantile.
D'accord.
Pardon, excusez-moi.
Non, pas de souci.
Donc, pour pouvoir assurer donc une visite dans les écoles pour tous les enfants de moins de 3 ans, pour que déjà au départ, on puisse faire du repérage dans les écoles. C'est important que ce repérage-là se fasse le plus tôt possible pour pouvoir accompagner les parents donc, au domicile, parce qu'avant le placement, effectivement, il y a plein de choses qui peuvent se faire au domicile, donc avec les professionnels donc, du département et professionnels de la protection de l'enfance.
Mmh. On y reviendra un peu plus tard pendant l'émission sur les différents champs d'action justement de ces professionnels dans ce cadre-là.
Vous parlez de l'importance effectivement de la prévention et notamment vous expliquez tout le travail qui est fait en amont au niveau des PMI, mais il y a aussi de nouveaux corps de métier qui ont été créés justement pour permettre de désenclencher en amont des problématiques qui pourraient être beaucoup plus prégnantes par la suite.
En effet, il y a eu 8 postes d'éducateurs qui ont été créés sur le département. Dans le cadre de toute la réorganisation qui a été faite, 8 référents éducatifs et avec des missions et des rôles bien différents. On a surtout mis l'accent sur tout ce qui était accompagnement des familles avec des postes qui sont rapprochés de l'ensemble du service social départementale et qu'on appelle des référents à la parentalité, au soutien des familles. On a mis en place aussi des référents par enfant. Il y a un référent par enfant, un référent éducatif qui a pour rôle de suivre et d'élaborer avec l'enfant et la famille le projet de l'enfant. Et on a aussi des référents enfants qui seront en charge du parcours de l'enfant tout au long de sa prise en charge, afin de garantir le fil rouge de la prise en charge et puis les questions et les orientations qui peuvent se poser tout au long de l'accompagnement, à la fois des familles, des enfants et puis de tout le système éducatif et qui permet à l'enfant de grandir dans de bonnes conditions.
Alors, de ce que je comprends, c'est qu'il y a une espèce de fil rouge au niveau du référent adulte, c'est ça ? Vous parliez de référent enfant, pour peut-être éclaircir ça ?
Alors, on a souhaité, dans le cadre de la prévention, justement, accompagner les familles le plus en amont possible. C'est-à-dire que dès qu'on a évalué qu'une famille pouvait être en difficulté avec l'éducation de son enfant, pouvoir lui apporter... un accompagnement et éducatif le plus tôt possible, justement pour éviter la séparation de l'enfant et de sa famille. Et du coup, on intervient et on souhaite intervenir. Alors, on a plusieurs dispositifs qui nous permettent de le faire, soit des accompagnements à domicile avec tout ce qui est prise en charge en milieu ouvert d'accompagnement éducatif, mais aussi des interventions de travailleurs d'intervention sociale et familiale qui vont dans les familles les aider sur des tâches quotidiennes très précises et très simples de la vie quotidienne. Et puis, le référent éducatif soutien à la parentalité qui, lui, va pouvoir aider la famille à comprendre ce qui se passe et ce qui bloque et ce qui fait qu'elle est en difficulté à un moment avant d'intervenir plus fortement et pour éviter cette intervention plus forte, effectivement.
Donc ça, Christiane Mosnier, je me tourne vers vous. Ce sont des postes qui ont été créés dans une démarche politique, c'est ça, du département ?
Complètement. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est effectivement le souhait de travailler sur cette thématique de la prévention. Et comme il vient d'être dit précédemment, ça nécessite donc de travailler sur le parcours de l'enfant en associant à chaque fois un professionnel, l'enfant et la famille. Et ça ne peut réussir que si on fait ce parcours-là de façon collective. Donc c'est une vraie volonté politique de donner les moyens aux services pour accomplir cette mission-là. Et puis, en complément aussi, c'est aussi se mettre en conformité donc, avec la loi 2007-2016 sur la protection de l'enfance. On en parlait tout à l'heure. Le projet pour l'enfant, c'est quelque chose qui n'était pas encore en place et qui est nécessaire pour pouvoir accompagner les enfants. Ça a permis aussi, au niveau du département...
Pardon, je vous coupe. Vous parliez d'une loi. Que dit cette loi ?
Ben, la loi, elle régit tout ce qui concerne la protection de l'enfance.
D'accord, ok.
Et donc, dans cette thématique-là, dans la loi, il y avait inscrit le projet pour l'enfant.
Oui.
Et un sujet sur lequel, ou encore, on avait des choses à faire. Donc, effectivement, on a travaillé pour être en conformité avec la loi.
C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a manqué de préciser dès le début. Et la protection de l'enfance est une compétence qui est rattachée à chaque département, c'est ça ?
Complètement. Le département est chef de file de la protection de l'enfance. Donc, en plus, politiquement, ça permet aussi au département de réaffirmer sa position au niveau du département, de reprendre sa place de chef de file du département. Parce que, comme vous le dites, effectivement, on ne travaille pas seul. On a des partenaires, l'Éducation nationale, la CAF, la MSA, des associations donc, qui sont gestionnaires d'établissements, les médecins libéraux également, les magistrats, les forces de l'ordre. Donc, le département est à l'initiative et coordonne tout ce qui est dans la thématique de la protection de l'enfance.
Vous vouliez rajouter quelque chose, peut-être ?
Oui, au niveau réglementaire, tout ce qui est de la politique protection de l'enfance, prévention et protection de l'enfance, est régi par un code juridique qui est le code de l'action sociale et des familles et la loi de 2016 dont parlait Madame Christiane Mosnier est inscrite dans le code de l'action sociale et des familles et du coup on a des objectifs à atteindre pour mettre en place cette loi de 2016. Aujourd'hui, le département de la Haute-Loire a fait ce qu'il fallait à travers toute la réflexion et tout le travail qui a été engagé depuis cette loi de 2016 pour mettre en place les préconisations de la loi. À la fois ce dont on parlait tout à l'heure, le référent par enfant, c'est-à-dire que pour chaque enfant pris en charge par l'aide sociale à l'enfant, il y a un référent qui suit son parcours et qui suit son projet pour l'enfant, et aussi toute la politique de prévention en direction des familles avec tous les outils qu'on peut mobiliser autour de cela. Donc, le Code de l'action sociale et des familles, c'est vraiment le document réglementaire qui est valable pour toute la France et chaque département porte la politique de protection de l'enfance en référence à ce code, mais chaque département aussi organise ses services et met les moyens qu'il faut pour mettre en place cette politique. Le département de la Haute-Loire a fortement voulu s'impliquer dans cette politique de prévention et de protection de l'enfance. C'est la création des postes supplémentaires, c'est la réflexion autour de l'organisation des services et la mise en place d'une nouvelle organisation pour permettre la mise en œuvre de cette loi.
Alors, cette loi, ces aménagements qui sont faits, ces postes créés, j'imagine que ça parle d'un constat Valérie Crim, soit de l'État, soit du département. J'aimerais qu'on parle de ce constat qui me paraît quand même important d'aborder. C'est un constat quoi ? Éducatif, pédagogique, sociétal, à tout niveau, générationnel ?
Alors c'est un constat, on prend en compte, on a des critères d'intervention et des critères justement qui nous sommes donnés au niveau national. On peut faire une évaluation de la façon dont se situe le département dans la moyenne de ce qui se passe au niveau des départements en France. On avait un constat très fort dans ce département, où on avait un taux de placement supérieur à la moyenne. Donc on savait que dans ce département, en 2015, ce taux de placement était plus important. Mais la situation du département n'est pas différente que celle des autres départements, et notamment des départements limitrophes, qui sont, comme le nôtre, un peu des territoires ruraux, avec peu de densité de population, et une précarité qui n'est pas très importante, même si globalement la population du territoire n'est pas une population très riche si on fait un constat socio-économique. En revanche, on avait des pratiques dans ce département, et notamment sur la protection de l'enfance, où on intervenait peu avant, en prévention, et par contre, on séparait beaucoup des familles de leurs enfants.
D'accord.
Et ce constat-là, une fois qu'il a été fait, on a décidé de travailler avec un organisme extérieur, et on a fait appel à l'Observatoire départemental de l'action sociale, qui est une association de loi 1901 qui est au niveau national et qui nous a aidés dans le cadre d'une recherche-action à creuser le constat, l'état des lieux, et faire vraiment un travail d'introspection important au niveau de nos pratiques et au niveau de la façon dont fonctionnaient les services. Et c'est à partir de ce travail qui a été participatif et qui a embarqué l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance et l'ensemble des agents du département qui travaillent sur ce sujet-là, qu'on a pu, derrière, et Josiane Coutarel en parlera davantage, mettre en place tout un plan d'action en direction de certains objets très précis pour mettre en place une amélioration des pratiques, des outils qui permettent de mieux travailler et d'évaluer correctement les situations. Et parallèlement, on a mis en place des formations pour les travailleurs sociaux avec 196 personnes formées au niveau du département, à la fois sur les pratiques en direction des familles et aussi sur de l'évaluation participative des situations qui a permis justement d'avoir une vision plus juste de la situation d'un enfant dans sa famille.
Mais j'allais y venir parce que je le rappelle, hein, donc vous, Valérie Crimsky, vous êtes directrice générale adjointe à la vie sociale. Donc j'imagine que la complexité aussi de vos actions, c'est qu'il y a multi-cibles, j'ai envie de dire. Il y a à la fois une cible enfant, une cible parentale. J'imagine que ça doit être complexe.
En même temps, ce n'est pas si complexe que ça de prendre une famille dans sa globalité. On ne sépare pas les problématiques par thématique. Une famille, c'est une unité. Et dans cette unité, il y a différents axes qui peuvent être des problèmes, qui peuvent porter des soucis. Et nous, on est là pour examiner la situation en global, dans sa globalité, et apporter des réponses au fur et à mesure et dans les différents domaines qui sont pointés. C'est la raison pour laquelle on n'a pas formé que les travailleurs sociaux du secteur de l'enfance, de l'aide sociale à l'enfance, on a formé l'ensemble des travailleurs sociaux, c'est-à-dire toutes les assistantes sociales et les acteurs aussi de la prévention santé. Les collègues de la PMI, de la protection maternelle et infantile, ont aussi participé à ces formations, de façon à ce que la vision elle soit partagée aussi par l'ensemble des intervenants qui interviennent soit en prévention, soit en protection d'une situation familiale. Puisque quand on s'occupe et quand on prend en charge un enfant, en réalité, c'est l'ensemble de la famille dont on s'occupe et l'ensemble des difficultés que rencontre la famille. Ce qui fait qu'on peut intervenir soit au niveau directement de l'aide sociale à l'enfance, soit au niveau de la prévention santé, soit au niveau de l'accompagnement social et sur des thématiques qui sont des thématiques de logement ou de précarité énergétique, soit au niveau de l'insertion aussi, puisqu'on a des familles qui sont aussi en difficulté par rapport à un parcours professionnel ou insertion. Et du coup, d'avoir une vision globale et transversale de la problématique ou des questions de la famille permet d'y répondre plus facilement.
Très clairement, l'un des enjeux aujourd'hui du service de l'aide sociale à l'enfance, c'est de réduire, j'imagine Valérie Kremski-Frey, les placements qui étaient particulièrement... il y avait une forme de déséquilibre entre les placements et l'accompagnement éducatif à domicile. Et aujourd'hui, tout ce qui est mis en place, c'est très clairement pour inverser un peu cette tendance-là.
Tout à fait. C'est, alors, plutôt que de placement, moi je parle de séparation. Parce qu'en réalité, la réalité d'un placement, c'est la séparation d'un enfant et de sa famille, et que ça a toujours des conséquences, et qu'on n'avait pas l'habitude de calculer les conséquences négatives que pouvait aussi entraîner une séparation. Donc moi, je préfère qu'on évite les séparations et qu'on propose aux familles un accompagnement qui lui permette de garder et de rester avec son enfant, de garder ses enfants près d'elle, mais d'étayer et de supporter la famille pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Dès lors que les conditions ne sont pas réunies, c'est sûr qu'il faut, et quelquefois malheureusement on est obligé, de valider une séparation. Mais tant qu'on peut préserver l'unité familiale, je pense qu'on a tout intérêt, et pour la famille, et pour l'enfant, et même pour la société à plus long terme, de garder l'unité familiale comme socle du développement de la famille et de l'enfant.
Alors, on reviendra un petit peu plus tout à l'heure sur les différents dispositifs qui existent. J'aimerais me tourner vers vous, Josiane Coutarel. Vous êtes directrice déléguée à l'enfance. Vous agissez sur plusieurs champs, en tout cas, de l'enfance. Est-ce que vous pourriez nous présenter tout ça tout d'abord ?
Bonjour déjà.
Bonjour.
Donc en protection de l'enfance, on a deux modes d'intervention. On peut intervenir à partir de décisions administratives et intervenir à partir de décisions judiciaires. Mm-hmm. Donc que sont des décisions administratives ? En fait, c'est une famille, des parents qui sont en difficulté sur le plan éducatif et familial et qui du coup sollicitent l'aide sociale à l'enfance pour de l'intervention, pour les soutenir sur leur parentalité. Donc, sur une décision administrative, ça veut dire qu'il y a un contrat qui est signé entre l'aide sociale à l'enfance et ses parents. À l'intérieur de ce contrat, on définit quelle va être l'intervention qui va être apportée par l'aide sociale à l'enfance et quels sont les objectifs de cette intervention. Quand on intervient sur une décision judiciaire, c'est qu'on a évalué une situation et que dans le cadre de cette situation, on fait le constat d'une situation de danger grave et immédiate pour un enfant, où ce sont des parents qui sont plutôt dans le déni des difficultés, qui ne souhaitent pas d'intervention au niveau de l'aide sociale à l'enfance. Ou alors, on est déjà intervenu dans un cadre administratif et on se rend compte que notre action n'a pas été efficiente et que les parents n'ont peut-être pas été en capacité de suffisamment collaborer pour qu'elle puisse être efficiente. À ce moment-là, il y a une saisine judiciaire et les magistrats décident de l'intervention qu'on pourra apporter au niveau de cette famille et de cet enfant.
Avant de revenir sur tout ça, vous nous donnez plein d'éléments, c'est super. Mais avant de revenir sur tout ça, ces décisions, j'imagine qu'elles partent d'un constat, d'une alerte, en tout cas.
En effet, donc on peut être alerté sur une situation par la famille elle-même, par des parents qui se sentent en difficulté. On peut être alerté aussi par des enfants ou des adolescents, par exemple au travers de l'école. Ça peut être des enfants qui parlent à l'école, qui révèlent des difficultés qu'ils rencontrent dans leur milieu familial. On peut être alerté par des voisins. Tout citoyen, j'ai envie de dire, peut alerter sur des enfants dont il constate qu'ils sont en danger ou en difficulté.
Dans ce cas-là, ces alertes sont données à qui précisément ?
Donc, ces alertes peuvent être transmises, comme je vous le disais, à l'école. Elles peuvent être aussi transmises, par exemple, à une assistante sociale de secteur. En général, en tout cas, toute situation d'enfant qui est repérée comme étant une information préoccupante, c'est-à-dire une alerte, est déposée à la CASED. La CASED, c'est un dispositif qui existe dans chacun des départements et qui, du coup, a pour rôle de recueillir l'ensemble des informations préoccupantes. Et ma collègue Sandrine Bonnefoy-Cortial, qui est responsable de la CASED, je pense, va intervenir après pour vous expliquer précisément quel est le rôle de cette cellule.
Bien sûr, on reviendra avec Sandrine Bonnefoy-Cortial pour décrypter tout ça, décrypter le rôle de la CASED et de ses missions au quotidien. D'accord, donc une fois que ces décisions, soit administratives, soit juridiques, comme vous le notiez, ont été prises, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, une fois qu'une décision a été prise, soit, je vous le dis, elle est sous l'angle de l'administratif avec un contrat avec les parents, soit c'est une décision judiciaire, et donc on met en œuvre l'intervention qui a été... que l'on a estimé la plus adaptée aux besoins de la famille et des enfants qui sont concernés. Donc là, on a effectivement une palette, j'ai envie de dire, d'outils, de dispositifs au service de l'aide sociale à l'enfance pour intervenir dans la famille.
Mmh. Et quelques outils que vous pourriez nous citer comme ça ?
Alors, ces outils, bien entendu, sont adaptés à la gravité de la situation. Ça peut aller... d'une intervention à domicile par des éducateurs, hein, de manière plus ou moins rapprochée, suivant les difficultés rencontrées. Ça peut être l'intervention d'une TISF, et je suppose que vous interviendrez tout à l'heure pour parler précisément de ce que c'est que cette intervention TISF. Ça peut être aussi, en parallèle de l'aide financière, qui peut être apportée à une famille en difficulté sur le plan financier. Ça peut être aussi une décision de placement avec l'accord des parents ou dans le cas d'une décision judiciaire. Ça veut dire que ça nécessite une séparation entre les parents et les enfants. Et dans le cadre d'un placement, certes, on travaille à répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant, aux difficultés qu'il rencontre, mais on essaie aussi beaucoup de travailler dans le cadre du soutien à la parentalité. Parce qu'effectivement, accueillir un enfant pendant plusieurs mois ou peut-être pendant 2 ans, si on ne travaille pas avec les parents et avec sa famille, on peut difficilement imaginer qu'il y ait un retour au domicile. Or, en protection de l'enfance, le premier objectif, c'est quand même de viser un retour au domicile de l'enfant dans sa famille.
Oui, comme disait votre collègue, l'idée, c'est vraiment de préserver l'unité familiale.
C'est ça, tout à fait.
Ok. Ok. Et le retour à ce domicile, il s'envisage comment, du coup ?
Si c'est dans le cadre d'une décision administrative, ça veut dire qu'on a pu faire le constat, l'observation, que les parents ont pu évoluer et puis répondre à certaines difficultés qu'ils rencontraient. Ça veut dire qu'ils ont à ce moment-là suffisamment de compétences parentales pour que l'enfant puisse rentrer au domicile. Ça veut dire aussi qu'on a travaillé avec cet enfant-là. Et que cet enfant, on a pu, par exemple, le rescolariser s'il y avait un problème de difficulté à l'école, comme par exemple des adolescents qui sont déscolarisés. Ça peut être aussi qu'on a pu répondre à des problèmes de santé, lui apporter un certain nombre de suivis, à la fois sur le plan physique et puis à la fois parfois sur le plan psychique, puisqu'on peut rencontrer aussi des enfants et des adolescents avec des troubles du comportement. Donc, quand on fait le constat qu'effectivement la situation ait pu évoluer et qu'on a à peu près la garantie que l'enfant va être bien dans son milieu familial et que les parents vont être en capacité de répondre à ses besoins, à ce moment-là, on prend cette décision du retour au domicile. On vous a expliqué tout à l'heure qu'il y a systématiquement un projet pour l'enfant qui est bâti. Donc, au travers de ce projet pour l'enfant, à l'intérieur de ce document qui est signé effectivement par l'aide sociale à l'enfance, mais aussi par les parents, ça veut dire qu'on a inscrit des objectifs de travail avec cet enfant et avec ses parents, et qu'on estime au moment du bilan que les objectifs ont été atteints et que cet enfant peut rentrer à son domicile. Sur une décision judiciaire, on rejoint à peu près les mêmes éléments que ce que je viens de vous donner, sauf que là, c'est un magistrat qui prend la décision du retour au domicile.
Effectivement, Lily, si je peux me permettre, ce qui est important de préciser peut-être, c'est de dire que vous avez vraiment un lien très privilégié avec la justice, avec laquelle vous travaillez régulièrement, et aussi lorsque vous êtes amené à devoir intervenir aussi sur des situations d'urgence, ça relève aussi des compétences de la ZESA.
Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'on peut être saisi 365 jours sur 365 et 24 heures sur 24 pour intervenir sur un accueil d'un enfant ou de plusieurs enfants parce que la justice estime qu'il y a une situation de danger grave et immédiate. Donc à ce moment-là, on a un système, un dispositif d'astreinte qui est existant sur le département et qui nous permet d'intervenir à tout moment pour pouvoir récupérer cet enfant dans son contexte de vie. À ce moment-là, on dispose d'un établissement qui est géré par le département et qui s'appelle le foyer départemental de l'enfance et qui permet d'accueillir des enfants à tout moment de l'année dans ce cadre-là. Et puis, cet établissement peut les accueillir de 3 à 18 ans. Et à côté, on a aussi des assistants familiaux qui peuvent intervenir et accueillir des enfants dans l'urgence qui ont de 0 à 3 ans.
D'accord. Donc, si je récapitule bien, on peut donc soit avoir un soutien à domicile quand une alerte est tombée.
Tout à fait.
Soit on peut avoir recours au placement immédiat de l'enfant parce qu'on considère qu'il y a une situation urgente et dans ce cas-là, ça se passe en foyer, c'est ça ?
C'est ça.
Et du coup, le retour à domicile, c'est le retour à domicile du foyer au domicile ou on passe par une case intermédiaire si, comment ça se passe ?
Non, en général, c'est le retour au domicile tout de suite en quittant le foyer. Mais ça veut dire quand même qu'on l'a préparé. Et ça veut dire qu'il y a aussi d'autres intervenants qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire, par exemple, l'assistante sociale de secteur, une TISF, voilà, d'autres intervenants qui peuvent travailler en milieu ouvert. Et on essaie d'avoir le maximum de coordination avec ces autres professionnels, de manière à ce que quand l'enfant rentre à domicile, il puisse y avoir quand même encore de l'accompagnement qui peut être apporté, ou en tout cas, les parents savent à ce moment-là à qui ils peuvent faire appel, si effectivement ils ont encore un besoin d'être accompagnés quand l'enfant revient au domicile.
Oui, c'est ça, parce qu'on considère que... Je me mets à leur place. Des fois, il n'est pas facile aussi pour les parents d'aller chercher les bonnes clés au bon endroit. Est-ce que c'est un problème, ça, dans votre métier ? En tout cas, est-ce que c'est une considération à prendre en compte, la capacité à aller chercher les bonnes clés ?
En tout cas, ce que j'ai envie, moi, déjà, de dire, c'est que pendant le temps de placement, on travaille avec les parents. Même si c'est l'enfant qu'on accueille, on travaille avec les parents. Et ce temps de placement, il permet aussi de les armer pour le jour où l'enfant rentrera à leur domicile. Donc ça veut dire qu'on les rencontre régulièrement, ça veut dire qu'on échange avec eux sur les difficultés qu'ils rencontrent. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, on leur transmet aussi un certain nombre d'informations qui peuvent leur permettre après de pouvoir être aidés s'ils en éprouvent le besoin, et donc ils savent à ce moment-là à qui ils peuvent faire appel. Et au niveau du département, on a tout un maillage quand même de notre département, qui est clairement affiché, dont on peut facilement repérer les intervenants. Et donc, du coup, les parents peuvent toujours faire appel, par exemple, à l'assistante sociale de secteur. L'école, en général, connaît l'existence de l'assistante sociale de secteur ou de la puéricultrice du service de PMI. Et donc, du coup, forcément, ce sont des relais sur le terrain. Certes, il y a l'action de l'aide sociale à l'enfance, mais il y a un grand nombre de partenaires en protection de l'enfance font qu'on a une collaboration, une coopération, comme par exemple avec les écoles, avec des services associatifs, et qui permettent comme ça de mailler l'ensemble du territoire.
Alors, en 2019, ce sont 1250 enfants qui ont été suivis par l'aide sociale à l'enfance, c'est ça ?
Oui,
je me trompe
tout
pas.
Dispositif confondu.
Tout dispositif confondu, tout accompagnement confondu. En moyenne, un accompagnement dure 5-6 mois. Combien de temps ? Est-ce qu'on peut faire une moyenne déjà ?
C'est extrêmement compliqué de faire une moyenne parce que forcément les situations sont très différentes. Et puis il y a aussi une évolution dans les situations qui n'est pas toujours prévisible. On peut par exemple connaître une amélioration de la situation sur un laps de temps d'une année, un an et demi, deux ans. On peut avoir aussi des situations sur lesquelles ça va nécessiter beaucoup plus de temps pour arriver à répondre aux difficultés rencontrées. Quand vous évoquez environ 5 mois, ça c'est plutôt la durée de séjour que peut connaître un enfant qui entre au foyer de l'enfance, parce que la mission du foyer de l'enfance c'est d'accueillir dans l'urgence, d'observer, d'évaluer la situation et de faire une proposition pour l'avenir de cet enfant.
Oui, c'est un rôle de médiateur finalement.
Voilà.
En quelques mots, rapidement, on va arriver à la fin de cette intervention. Alors, cette émission est là pour prévenir, pour sensibiliser à la protection de l'enfance, pour préserver aussi au mieux l'unité familiale à l'ère 2020. Est-ce que on se rend compte que les situations sont toutes différentes, que les placements, la prise en charge par l'ASE est multifactorielle, est due à différents facteurs? Est-ce qu'il y a des signes quand même?
Forcément, il y a des signes.
Je pense que c'est important de les dire si certains intervenants en rencontrent.
Oui, il y a des signes que peuvent manifester des enfants ou des adolescents quand ils ne vont pas bien et qu'ils rencontrent des difficultés au sein de leur famille. Chez un enfant qui, par exemple, va se montrer très attristé lorsqu'il se rend à l'école, un enfant qui peut aller un jour sur deux à l'école, pas de manière régulière. Un enfant qui peut être dans une perte de poids, qui est dans des difficultés de langage, voilà, qui montre comme ça des choses à voir qui font qu'on peut se dire que cet enfant-là certainement ne va pas bien. Chez des adolescents, c'est aussi souvent des signes qui sont un peu différents. Ça peut être des adolescents qui sont déscolarisés, des adolescents qui sont dans des conduites un peu extrêmes, dans des passages à l'acte, qui peuvent connaître déjà des petits actes de délinquance, ou alors ça peut être des adolescents qui commencent à être dans des conduites addictives, notamment de la consommation, par exemple, de drogue.
Dans ce cas-là, première chose à faire, alerter, c'est ça?
Alerter.
Alerter auprès de qui? De la CASEN, c'est ça?
C'est ça, oui.
Ou du 119?
Ou du 119.
Ok. Oui. Je vous remercie en tout cas, Josiane Coutaral, pour cette intervention. On accueille maintenant Sandrine Bonnefoy-Cortial. Vous êtes responsable de la CASEN. Vous pourriez nous donner déjà qu'est-ce que signifie CASED?
Oui, alors bonjour. Donc la CASED, c'est la cellule enfance en danger de notre département. En fait, depuis 2007, ce sont les présidents des conseils départementaux qui sont en charge du recueil, du traitement et de l'évaluation des informations préoccupantes. Donc sans rentrer dans une définition trop compliquée de l'information préoccupante, je dirais juste que une information préoccupante, ce sont la transmission d'éléments qui concernent un mineur, et éléments y compris qui peuvent être médicaux, hein, qui laissent craindre qu'un enfant se trouve en danger ou en situation de danger. Donc, en fait, le président du conseil départemental, pour exercer cette mission, a un outil opérationnel qu'on appelle la cellule enfance en danger. Chaque département est doté d'une cellule unique de recueil et de traitement d'informations préoccupantes. Donc, la CASED, cellule d'aide et de soutien pour l'enfance et l'adolescence, elle est constituée sur le département d'un responsable qui est cadre en charge de la protection de l'enfance et de deux personnes qui sont gestionnaires administratifs. Elle recueille donc toutes les informations préoccupantes qui sont transmises, soit par courriel, soit par courrier postal, soit par un contact téléphonique.
Qui donne ces alertes-là?
Alors, les alertes...
Pardon, je me précipite.
Les alertes, elles peuvent être données par des professionnels, les professionnels qui œuvrent dans le champ de la protection de l'enfance, mais pas seulement, les professionnels qui sont aussi en charge de l'éducation des enfants, de l'accompagnement des enfants dans le cadre scolaire, donc ça peut être des professionnels de l'éducation nationale. Les alertes peuvent être données également par les services de la justice lorsqu'il y a des enquêtes qui sont dirigées dans le cadre des enquêtes pénales et qui concernent des familles qui ont des mineurs au domicile. Les services judiciaires peuvent nous demander d'évaluer les conditions de vie de ces enfants au domicile familial en complément des enquêtes pénales. Les informations préoccupantes peuvent nous être transmises, et ça fait partie d'une grande majorité de transmission des éléments, par les services sociaux du département, que ce soit les assistantes sociales de polyvalence de secteur, les puéricultrices du service de protection maternelle et infantile, Et on en parlait tout à l'heure, ces informations préoccupantes peuvent également nous être transmises par le SNATED. C'est le Service National d'Accueil Téléphonique Enfance en Danger. Donc c'est en fait le 119, ouais. Voilà. Donc en fait, qui répond en permanence aux appels téléphoniques, principalement des citoyens et des particuliers qui veulent appeler et surtout déposer des éléments préoccupants concernant un mineur ou des mineurs susceptibles d'être en danger au domicile familial. Donc ces appels qui sont effectués via le 119 nous sont retransmis sur les cellules enfance en danger des départements et sont alors traités comme les autres informations préoccupantes qui arrivent à la cellule.
C'est ça. Je ne comprenais pas la différence entre le 119 et la CASED. Le 119, c'est d'envergure plutôt nationale, c'est des IP données de niveau national, et la CASED plutôt départementale.
Tout à fait.
Ok. Voilà. Je vais me coucher moins bête ce soir sur plein de domaines. Merci pour cet éclairage. Du coup, quand l'alerte est donnée, là, on se rabat, c'est ça, sur le département et sur les différents dispositifs qui existent, avec soit un volet à domicile, soit un volet placement, c'est ça?
Alors, c'est ça, mais c'est pas tout de suite ça, en fait. Voilà. Okay. Donc, il y a, première chose, c'est le recueil. Donc, le recueil de ces informations préoccupantes, elles sont donc réceptionnées à la CASED. Moi, je les lis toutes. Et on procède à une analyse de premier niveau en fonction du contenu de ces informations préoccupantes et aussi en fonction de est-ce que l'enfant est connu ou a été connu. D'accord. Par nos dispositifs de protection de l'enfance. Ce qui permet de donner alors l'orientation la plus efficace possible. Okay. Parce que nous devons parfois intervenir dans des délais les plus rapides possibles. Ça dépend du contenu. Tenu de l'information préoccupante.
Donc soit l'enfant soit
l'enfant est connu par notre dispositif de protection de l'enfance. Donc comme vous l'a expliqué tout à l'heure Madame Coutarel, soit il est connu dans le cadre d'un accompagnement administratif ou d'un accompagnement judiciaire. Et à ce moment-là, nous transmettons l'information préoccupante au service en charge de cet accompagnement. Ça peut être le service de l'aide sociale à l'enfance si, par exemple, il y a une mesure d'aide éducative à domicile qui est en cours. Ou ça peut être au service judiciaire, donc au juge des enfants et aux associations qui sont compétentes pour exercer les mesures d'assistance éducative dans un cadre judiciaire, comme la ZEA 43, par exemple.
Lorsque vos enfants, lorsque effectivement ces informations préoccupantes concernent des enfants qui ne relèvent pas d'un dispositif qui est déjà mis en place par le département, quelles sont à ce moment-là les actions qui sont menées? Il y a des évaluations qui sont faites directement à domicile?
Voilà. Donc, lorsque la situation de l'enfant n'est pas accompagnée dans le cadre d'un dispositif de protection de l'enfance, et si les éléments effectivement transmis relèvent bien d'une qualification préoccupante, j'allais dire, on procède à une autre analyse, c'est-à-dire qu'on regarde si effectivement il y a urgence à intervenir et à aller évaluer rapidement cette situation. Parfois, il y a des informations qui nous sont transmises et qui doivent nécessiter l'intervention immédiate en fait, des professionnels de la protection de l'enfance pour aller vérifier si effectivement l'enfant est en danger au domicile familial. Donc c'est une orientation qui est faite sur les territoires sociaux du département. Donc en fait, il y a un maillage sur le département. On a trois territoires sociaux qui correspondent approximativement aux arrondissements. Donc le territoire de la Jeune-Loire qui correspond à l'arrondissement d'Issingeaux, le territoire de Lafayette qui se rapproche de l'arrondissement de Brioude, et pour le reste, entre les deux, c'est le territoire du Velay. Donc ces territoires, ils sont constitués de plusieurs équipes de professionnels. Il y a des équipes du service cohésion sociale, donc qui sont en fait des assistantes sociales de polyvalence de secteur, des équipes du service de la protection maternelle infantile, les infirmières puéricultrices et les équipes de l'aide sociale à l'enfance. Donc lorsque nous sollicitons une évaluation dans le cadre de la protection de l'enfance, cette évaluation est transmise au territoire social qui va désigner un binôme évaluateur, c'est-à-dire un binôme de professionnels, assistants sociaux, puéricultrices qui vont intervenir au domicile familial pour évaluer les conditions de vie de cet enfant et de l'ensemble des mineurs qui sont présents au domicile familial. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une IP concerne un enfant, si d'autres mineurs sont présents au domicile familial, on fait une évaluation de l'ensemble des mineurs.
Voilà.
Une fois que ces évaluations à domicile sont faites, qu'est-ce qui se passe ?
Donc l'évaluation, elle doit permettre de vraiment mettre le focus sur l'enfant et en permettant aussi aux parents de pouvoir s'intégrer dans cette évaluation. L'idée, c'est d'apporter un diagnostic de la situation et de mettre aussi en perspective les capacités parentales, les compétences parentales. C'est pas une intervention qui est contre les parents, mais c'est une intervention, on doit garder à l'esprit que cette intervention, elle est faite avec les parents et avec l'adhésion des parents. Donc, in fine, lorsque cette évaluation est terminée, ce qu'il faut savoir, c'est que cette évaluation, elle est encadrée aussi par des cadres du service social et de la PMI, et elle introduit une pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des échanges avec les psychologues, sages-femmes, d'autres professionnels qui interviennent sur notre département. Une fois que cette évaluation est terminée, elle propose une orientation sur la situation. Donc il y a plusieurs cas de figure. Effectivement, si on considère que les éléments de danger ne sont pas avérés, ou parfois l'évaluation permet aussi de débloquer des choses au niveau de la famille, de la posture des parents. Et si finalement, au bout de cette évaluation, tous les professionnels sont rassurés et si l'équilibre familial est adapté à la situation, on propose un classement administratif du dossier. Alors nos services, par contre, restent toujours à disposition des familles et peuvent contacter à tout moment soit la puéricultrice, soit l'assistante sociale. Si la situation a mis en lumière des difficultés pour les parents à accompagner leurs enfants, à prendre en charge la situation de l'ensemble des mineurs, à déployer, j'allais dire, leurs compétences et leurs capacités parentales, on leur propose des aides qui vous ont été décrites tout à l'heure par l'intervention de mesures dans un cadre administratif. Ça suppose que les parents comprennent le sens de ces interventions et y adhèrent. Et à ce moment-là, c'est les services de l'aide sociale à l'enfance ou le service de la cohésion sociale qui peut garder la main, entre guillemets, sur cette situation en proposant, par exemple, un accompagnement médico-social, un accompagnement de la puéricultrice de secteur ou l'intervention d'une travailleuse familiale. En revanche, si les éléments de danger sont avérés et si la situation des parents ne permet pas qu'ils puissent se saisir de ces accompagnements administratifs, on propose une saisine de l'autorité judiciaire. Donc, il y a un rapport qui est écrit, un compte-rendu qui est fait aux parents sur les éléments de l'évaluation. Ce rapport revient à la CASED, en fait. Hein, donc, moi, j'étudie tous les rapports. Je valide ou pas les préconisations en fonction des éléments caractérisant le danger pour l'enfant, en fonction de la posture des parents, est-ce qu'ils adhèrent ou pas aux mesures qui sont proposées. Et s'il y a lieu, je transmets le signalement au parquet des mineurs en vue d'une saisine du juge des enfants pour la mise en place d'une mesure d'assistance éducative.
Donc la CASED, finalement, l'action de la CASED, c'est de l'alerte à la prise en charge.
C'est de l'alerte à la prise en charge, au traitement, à l'évaluation. Et je dois dire que pendant toute la durée de l'évaluation, il y a des échanges très réguliers qui se font entre la CASED et les territoires sociaux, parce que les situations, parfois, elles bougent rapidement, elles évoluent rapidement, dans le bon sens, mais parfois aussi dans le mauvais sens. Et parfois, on est obligé d'intervenir avant même la fin de l'évaluation pour solliciter l'autorité judiciaire en vue de mesures de protection dans l'intérêt des enfants.
Tout à l'heure, Lily a avancé le chiffre environ de 700 informations préoccupantes qui ont été recensées en 2019. Est-ce que vous avez constaté une évolution ? Les chiffres sont peu ou prou les mêmes en fonction des années ? Ou la typologie des informations préoccupantes évolue-t-elle ?
Alors, concernant la typologie des informations préoccupantes, oui, il y a une évolution, ces deux dernières années, qui s'est peut-être même accélérée depuis la crise sanitaire, hein, que l'on connaît, dans le sens où le contenu des informations préoccupantes qui arrivent sur la cellule relève beaucoup plus d'éléments qui peuvent faire l'objet d'une qualification pénale, c'est-à-dire des faits de maltraitance qui prennent le dessus par rapport aux négligences qui sont habituellement dénoncées. Lorsque nous réceptionnons des informations préoccupantes qui dénoncent des violences, des maltraitances sur enfants, des dénonciations de violences de mineurs de la part d'un des parents, nous transmettons immédiatement ces informations au parquet en vue d'une enquête pénale. Ce qui n'empêche pas que parallèlement, nous continuons notre intervention administrative. Nous avons un rôle très, très étroit avec le parquet, une collaboration très étroite et qui est pour le coup assez efficace. Et on intervient simultanément parfois sur des situations et donc on a besoin d'échanger parfois quotidiennement sur une situation.
Vous nous dites qu'avec la crise sanitaire, la typologie des IP et des informations préoccupantes a changé, qu'on a plus d'informations préoccupantes qui relèvent des violences. J'avais une question. Du coup, ces informations préoccupantes, elles viennent de qui majoritairement ?
Alors,
et là aussi, est-ce qu'on a vu une évolution de ces acteurs à l'origine de...
Non, alors là, c'est à peu près toujours les mêmes au niveau des pourcentages hein, des personnes signalant. Les principaux pourvoyeurs d'IP, hein, d'informations préoccupantes dans notre jargon, ce sont les services sociaux départementaux, puis viennent les services judiciaires et les services de l'éducation nationale.
D'accord.
On a un gros travail qui est engagé avec les services de l'éducation nationale et qui nous transmet effectivement... grand nombre d'informations préoccupantes, que ce soit dans le secondaire que dans le primaire, en fait, hein, dont tout âge est concerné par ce type de problème.
Vous avez bien répondu à la question de la typologie. En revanche, sur la question du chiffre en lui-même, de 730, à peu près, un peu ou prou, en 2019, est-ce qu'il y a une forme d'évolution ou de régression sur la quantité d'appels que vous recevez et d'informations préoccupantes ?
Alors, de régression, non. D'évolution, ce qu'il faut savoir, c'est que notre département s'est doté d'un nouveau logiciel de traitement des informations préoccupantes. Et pour vous donner des chiffres qui puissent être comparés de façon très objective, je suis un peu... c'est pas possible parce qu'en fait, ce logiciel a été mis en place fin 2018. On a donc les chiffres que je vous ai donnés, c'est les chiffres 2019. Et je pourrais effectivement avoir une analyse plus fine sur ces indicateurs à l'étude des chiffres de l'année 2020 qui sortiront d'ici quelques jours.
Merci en tout cas de nous avoir éclairé là-dessus sur la casette, ce que c'était de décrypter tout ça. On va maintenant tourner vers Mathieu Pereira. Mathieu, vous êtes psychologue rattaché à l'aide sociale à l'enfance. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Alors déjà, en quelques mots, comment vous pourriez présenter votre métier, votre champ d'action ?
Ça, c'est une vaste question. C'est une vaste question, effectivement. Du coup, ce que je vous propose peut-être, c'est de présenter trois grands champs d'intervention pour les psychologues qui exercent des missions au sein de l'aide sociale à l'enfance, mais pas nécessairement qu'au sein de l'aide sociale à l'enfance. Puisqu'en fait, les psychologues qui travaillent pour le département sont des psychologues territoriaux qui peuvent avoir des missions qui peuvent être plus larges et au-delà de l'aide sociale à l'enfance. Là, je vais vraiment me centrer sur la question du travail qu'on peut faire dans le champ de la protection de l'enfance. À ce titre-là, on peut intervenir dans trois grands temps. Je dirais qu'il y a le temps de l'évaluation, puisque dans ce temps-là, on peut proposer par exemple une évaluation psychologique, dont peut-être je vous parlerai si ça vous intéresse. Il y a aussi le temps du soutien psychologique qui peut être proposé, notamment en cours de mesure. Et puis, il y a aussi tout ce qui concerne une partie un peu institutionnelle qui est le recrutement des assistants familiaux et qui est une dimension aussi importante de notre travail, puisque là, il s'agit d'emblée de pouvoir recruter des personnes qui peuvent faire face à un métier qui est extrêmement difficile et dont on parlera par la suite, si j'ai bien compris.
Quand on requiert votre aide de psychologue,
oui.
Comment ça se passe concrètement ?
Alors, si on prend par exemple l'évaluation psychologique. Donc l'évaluation psychologique, elle peut avoir lieu, pour faire la transition avec ce qui vient d'être dit, dans le cadre de la protocole, dans le cadre du protocole de l'enfance en danger. C'est-à-dire que quand on procède à une évaluation suite à une alerte, l'idée c'est vraiment de repérer quels sont les besoins de l'enfant et où il en est de son développement. Puisque la question principale qui nous est posée au niveau du département et des équipes, c'est de savoir si le développement de l'enfant est impacté par éventuellement des maltraitances, par un contexte de négligence ou tout simplement aussi par un contexte socio-économique qui est délétère pour le développement de l'enfant. Pour, si vous voulez, pour, c'est, le développement de l'enfant, c'est quelque chose qui peut se mesurer. Et il y a des outils psychologiques et aux côtés des médecins, si vous voulez, et des référents, des éducateurs, on essaye d'avoir une appréciation la plus, je dirais, objective possible du niveau de développement d'un enfant. Et là, à ce titre-là, les psychologues vraiment ont un grand rôle à jouer. Et je pense même que dans les années à venir, avec le développement de la psychologie, vraiment, c'est un rôle qui va s'accentuer, je pense, dans le champ de la protection de l'enfance, qui est, et je tiens à le rappeler ici, aussi un, très en lien avec la santé publique, puisqu'il s'agit aussi de protéger aussi la santé des enfants qui nous sont confiés et des adultes qui vont devenir.
Oui, c'est un service d'intérêt général, finalement.
Ah, bien entendu, c'est un service public. Donc, on a une mission d'intérêt général.
C'est important de le préciser. Et là encore, la mission n'est pas de... Enfin, l'objectif n'est pas de séparer l'enfant de sa cellule familiale, mais bien de préserver la cellule familiale.
Alors, voilà, je vous remercie d'amener sur cette question-là, puisque c'est des choses qui ont déjà été évoquées auparavant. Moi, je trouve, en tant que psychologue, que la finalité de la protection de l'enfance, c'est quand même de répondre aux besoins de l'enfant. C'est vraiment ça, la finalité. Et d'ailleurs, la loi de 2016 nous le rappelle. C'est une loi qui s'intitule « Loi relative à la protection de l'enfant ». Et il s'agit bien de répondre à ses besoins, et si possible, en respectant ses droits. Et donc, la question du lien à ses parents, des relations à ses parents, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. Ça, c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit.
D'accord.
Puisque justement, on est dans une mission d'intérêt général et qu'on se projette dans l'avenir.
Vous parliez tout à l'heure de la fameuse mallette que vous pouvez avoir, de ces outils qui vous permettent d'évaluer effectivement dans quelle mesure un enfant peut recourir à un suivi dans le cadre de l'ASE. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ces outils que vous avez à disposition pour faire vos évaluations ?
Bah, je peux vous donner deux exemples un peu emblématiques. Le premier, peut-être, c'est celui qui est le plus connu, c'est le test du Rorschach. Je ne sais pas si vous... C'est le test des taches d'encre qu'on voit de temps en temps dans les films. Et là, l'idée, c'est d'apprécier la personnalité et la construction identitaire d'un enfant, en l'occurrence, puisque c'est un test qu'on peut adresser à l'enfant. Un autre test emblématique, c'est ce qu'on appelle le Brunelleschi, qui est un test qui permet, si vous voulez, d'appréhender chez le tout jeune enfant et chez le nourrisson quel est son niveau de développement sur le plan moteur, sur le plan postural, sur le plan de la tonicité, sur le plan de la relation à l'autre, sur le plan des coordinations entre les mains, on appelle ça les coordinations oculomotrices, entre le regard, la main. C'est vraiment pour apprécier assez finement et surtout en pouvant comparer avec la norme, puisqu'il s'agit vraiment de comparer le développement de l'enfant à ce qui est attendu à son âge. Et ça, le Brunelleschi le permet pour des enfants qui ont entre 3 mois et environ 3 ans.
Qu'est-ce qui va vous alerter justement ? Qu'est-ce qui va vous mettre la puce à l'oreille par rapport à ces outils que vous avez à disposition ?
Alors, ce qui va nous alerter, c'est un petit peu tout ce qui a été dit par Madame Coutarel tout à l'heure. Alors, si on prend par exemple les enfants qui sont jeunes, ce qui va nous alerter, c'est tout ce qui est de l'ordre des dysrégulations, c'est-à-dire quand les enfants qui sont soumis à des stress intenses peuvent avoir des fonctions physiologiques, par exemple, qui se dérégulent. Ce sont des enfants qui peuvent avoir des accès de dénurésie, qui peuvent avoir des difficultés à réguler de manière chronique leurs émotions et à être beaucoup dans l'action, dans l'excitation. Si vous voulez, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que ce sont des enfants qui vont parler, mais avec leur corps, au lieu de parler avec des mots. Et dans le travail, ça permet de faire le lien avec ce que je voulais aborder ensuite, dans le travail qui est fait avec les enfants, c'est de passer d'un langage du corps à un langage verbal. Ça, c'est vraiment le travail après psychothérapeutique qui peut être fait avec les enfants ou éducatif d'ailleurs, puisque vraiment on ne peut pas dissocier le travail qui est fait par les médecins, du travail qui est fait par les psychologues et du travail qui est fait par les référents, les assistants familiaux, etc. On a vraiment, et je rejoins l'idée de maillage, alors tout à l'heure c'était l'idée du maillage territorial, mais il y a aussi un maillage autour de l'enfant, quand il est protégé.
Tout à l'heure, vous avez précisé que votre champ d'action était effectivement dans le cadre de l'évaluation, notamment, hein, pas que. Cette évaluation intervient uniquement dans le cadre du domicile de l'enfant. Vous êtes amené également à évaluer dans le cadre d'hébergement, comme au foyer de l'enfance, comme dans les MECS, comme dans des milieux ouverts, ou simplement, vraiment, ça se cantonne au foyer familial.
Oui, c'est vrai que je ne suis pas allé au bout de ma réponse et je m'en excuse, mais donc je vous ai parlé d'une évaluation psychologique qui peut avoir lieu dans le cadre de la procédure d'évaluation dans le champ de l'enfance en danger. Mais après, il doit y avoir dorénavant, et encore une fois, c'est la loi qui nous le rappelle, une évaluation au moment où on accueille un enfant, et ce, quel que soit le cadre, notamment pour les enfants les plus jeunes. Quand je parle d'évaluation, je pense à une évaluation médicale, donc ça qui est exercé par les médecins de PMI dans notre département. Et suite à cette évaluation médicale, il y a une évaluation psychologique. Et là, la finalité de cette évaluation, c'est une finalité spécifique, c'est celle d'essayer de repérer des besoins de soins. Pour ce qui me concerne, moi, des besoins de soins en santé mentale. Puisqu'on est d'accord, les enfants qui nous sont confiés, en tout cas les enfants protégés, ce sont des enfants qui ont pour la plupart vécu des traumatismes multiples, dans une période de développement particulièrement sensible, en général les premières années de la vie, voire parfois même sur le troisième trimestre de grossesse. Et on sait que ça peut impacter le développement, notamment cérébral, de l'enfant. Donc si vous voulez, ça nécessite aussi de répondre à des besoins spécifiques. Quand je dis spécifiques, ça veut dire que ce ne sont pas des besoins pour un enfant tout venant, vraiment pour les enfants protégés qui ont subi des maltraitances.
Donc l'évaluation est faite, derrière il y a le fameux suivi. Il est de quel ordre ce suivi, en termes de fréquence, en termes d'intervention à domicile ou alors dans les foyers?
Alors, pour ce qui concerne les psychologues, nous en général, en tout cas dans notre département, on fonctionne sur des suivis ou des soutiens qui se mettent en place au sein des maisons départementales de solidarité. Donc on n'intervient pas au domicile. Mais du coup, moi en tout cas, alors ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit aussi, c'est que la psychologie, c'est une discipline complexe avec beaucoup d'écoles de pensée et on n'a pas tous forcément la même approche. Donc si vous voulez bien, je vais vous dire moi comment je travaille.
Bien sûr.
Quand il s'agit d'un soutien psychologique, il y a deux façons d'appréhender les choses. La première, c'est de travailler directement avec l'enfant. Donc là, on est plutôt sur des enfants qui sont grands et on va viser à satisfaire, si vous voulez, le besoin d'identité. C'est-à-dire que dans le cadre d'un placement familial, par exemple, on va essayer de soutenir la construction identitaire d'un jeune, d'essayer de soutenir son sentiment d'appartenance à la fois, par exemple, à sa famille naturelle et à la fois à une famille d'accueil qui prend soin de lui au quotidien. Et si vous voulez, les difficultés identitaires qu'on rencontre tous, par exemple au moment de l'adolescence, elles sont décuplées chez un enfant qui est en mesure de protection. Et donc ça nécessite vraiment un soutien psychologique, éducatif, parfois aussi médical.
Est-ce que c'est
un exemple.
Est-ce que c'est une volonté de la part de vous, psychologue, justement, de faire ce suivi? Ou cette évaluation, vous disiez tout à l'heure que ça se passait à l'extérieur du domicile. Est-ce que c'est une volonté de justement se détacher de ce cadre-là ou de ce non-cadre?
Oui, bien sûr, c'est des choses qui sont pensées. Si vous voulez, c'est aussi, on essaye de veiller à la différenciation des places, à la différenciation des espaces. On a la chance de pouvoir travailler en équipe pluriprofessionnelle, donc aux côtés des référents, aux côtés des puéricultrices, des médecins. Et si vous voulez, on essaye... avec nos spécificités à chacun, de constituer un maillage. Et la finalité de ce maillage, bah, c'est d'essayer de faire grandir l'enfant du mieux possible, quelles que soient les expériences traumatiques qu'il a pu vivre. Et on n'est pas les seuls à travailler là-dedans, puisqu'il y a aussi les enseignants, etc. Donc c'est vraiment... Et moi, cette notion de chef de file, par exemple, je la trouve vraiment intéressante, parce qu'il y a l'idée que le département viennent comme ça regrouper autour de l'enfant tout un tas de professionnels qui vont lui permettre de bien grandir. Et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui en soit le chef de cette action-là.
Une fois que la situation donc est évaluée, une fois que le suivi psychologique est entamé, est-ce que et quels sont les signes, ou alors est-ce qu'il existe une fin de suivi? À quel moment vous dites c'est bon, j'ai fait mon travail?
Là, vous renvoyez à Freud, analyse avec fin, analyse sans fin.
Non, je pense que c'est
alors,
important de le
non, mais oui, oui, c'est important. Alors, en fait, si vous voulez, la construction identitaire d'un individu, on est d'accord, n'est jamais. C'est toujours un processus qui est sans fin, pour le coup. Donc, nous, dans notre intervention en tant que psychologue, on essaye de soutenir déjà quand l'enfant le souhaite, quand on sent aussi qu'à un moment donné, ça a une utilité pour lui. Et ça, on essaye de l'évaluer. Maintenant, on est de plus en plus quand même dans un travail où on essaye de mesurer un peu l'impact de ce qu'on peut proposer. Donc, on n'est pas dans un travail qui est comme ça pouvait se faire par le passé quand on parlait de psychanalyse, où c'était un travail qui était interminable. Nous, c'est absolument pas notre champ d'intervention. On est vraiment sur des choses structurées où on travaille en lien avec les référents ou avec les médecins de PMI pour essayer de trouver à un moment donné pourquoi on intervient. Il y a des objectifs qui sont précis et souvent ces objectifs, ils sont identifiés en termes de besoins.
Donc votre intervention n'est pas toujours systématique, en fait, vous?
Absolument pas.
Je pensais que ça faisait partie du protocole qui avait été mis en place du moment où, effectivement, il y a une information préoccupante qui a été signalée. Non.
Alors, le seul caractère systématique, c'est pour l'évaluation en tout début d'accueil. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place.
Mais donc, le suivi n'est pas forcément obligatoire.
Alors, suivi n'est pas obligatoire pour différentes raisons. La première, je vous parlais tout à l'heure aussi de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et il se trouve qu'il y a des enfants, parfois, pour qui ce n'est pas possible de mettre en place ce type de travail. Parce que c'est un travail ils ne sont pas prêts. Ça, c'est par exemple la première raison. La seconde, c'est qu'on a aussi beaucoup d'enfants qui bénéficient aussi de soins dans des structures de soins désignées. Par exemple, les centres médico-psychologiques. Voilà.
Un suivi peut être déjà entamé en fait au préalable de l'évaluation.
Oui. Les psychologues qui interviennent dans le champ de l'aide sociale à l'enfance interviennent vraiment dans le cadre du soutien au placement. Ça aussi, c'est une chose qui est importante à avoir à l'esprit. On n'est pas un service de soins. On est un service qui est là pour aider l'enfant à grandir et notre outil de travail, ça va être quand il s'agit du placement familial, et bien de l'accueil familial, quand il s'agit des mesures éducatives en milieu ouvert, ce sont les interventions des éducateurs. Et on essaye de travailler avec ces outils-là comme finalité, c'est toujours par contre la satisfaction des besoins fondamentaux de l'enfant.
Ok, donc du coup quand vous suivez certaines situations, pas tout le temps, hein, on a bien compris, c'était pas forcément immédiat, mais quand vous suivez cette situation-là, est-ce qu'il y a un renfort aussi du suivi envers soit la famille d'accueil, soit le foyer, sur comment il se comporte au sein de ces structures-là?
Je vous remercie de cette question, parce que justement, c'était quelque chose que j'avais prévu d'évoquer. Effectivement, donc je vous ai dit, le premier mode d'intervention, ça peut être d'intervenir directement auprès de l'enfant. Le deuxième mode d'intervention, évidemment, c'est de soutenir les adultes qui s'occupent de
bien
cet
sûr.
Enfant. Et donc là, finalement, on rejoint tout ce qui a été dit depuis le départ. Alors, ce que je vais faire, et comme ça, je pense que ça permettra d'illustrer mon propos, je vais repartir de la définition de l'autorité parentale dans le Code civil. Et vous allez comprendre. Il est dit dans le Code civil qu'il s'agit de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect qui est dû à sa personne. Quand on intervient auprès des parents, on intervient pour soutenir cette autorité parentale. Et là, on voit bien que la finalité, c'est l'enfant. Donc si vous voulez, ce n'est pas incompatible, bien au contraire. Il faut simplement bien avoir à l'esprit que quand nous, on intervient dans le cadre de notre travail, on a une finalité qui est le fait d'aider un enfant à bien grandir. Et là, on rejoint la notion de mission d'intérêt général, puisqu'on pense à l'avenir de notre société. Mais en même temps, on le fait en essayant de le faire dans le cadre le plus normatif possible. Et le cadre le plus normatif possible pour un enfant, c'est de grandir dans sa famille.
écoute Valérie Bussac, qui est justement assistante familiale à Sambadel et qui explique notamment dans le son l'importance d'être accompagnée par des professionnels dans le cadre d'un quotidien qui n'est pas toujours évident. Écoute.
Alors, je m'appelle Valérie Bussac et je suis assistante familiale depuis plusieurs années. J'accueille trois enfants que j'ai eu tout petit. Le premier, il est arrivé, je suis allée le voir pendant 3 jours en pédiatrie, juste après l'accouchement de sa maman. C'était une décision qui avait été prise que cet enfant ne rentrerait jamais chez lui. Ça a été mon premier accueil. Ça a été quelque chose d'émotionnellement très très fort. Et ensuite après j'ai accueilli, un an et demi après, j'ai accueilli une petite fille qui avait 6 mois et demi. Ou alors là, c'était autre chose. C'était d'autres comportements, d'autres troubles. Bon, cette petite fille, elle est toujours chez nous. Ça fait 7 ans. Et ensuite, j'ai laissé un petit peu de temps, je les ai laissés grandir un petit peu. Et je suis repartie sur un troisième accueil où je voulais aussi un tout petit. Il est arrivé, il avait 18 mois. Parfois, ce qui est compliqué, c'est de se mettre à la hauteur de leurs émotions. Parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'ils veulent nous dire. Et ils ont des comportements tels qu'on ne sait pas parfois quoi en faire. Et c'est là aussi qu'intervient le service, les éducatrices, la psychologue du service, qui sont très, très, très importants. Parce que déjà, ils ont un regard distancié, parce qu'ils ne sont pas l'enfant au quotidien comme nous. Donc, elles écoutent ce qu'on a à leur dire et elles nous apportent un regard distancié. Parce que c'est des professionnels qui sont, même si on forme une même équipe, on n'a pas la même place. Donc, elles ont leur ressenti, elles ont leur professionnalisme à elles. Et elles nous guident, elles nous aiguillent et elles nous permettent parfois de résoudre des situations que seules, on n'y arriverait pas.
On retrouve Valérie Ramérin qui... Bonjour, vous êtes référente en placement familial. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur vos missions, sur ce que vous faites? Référente placement familial, c'est un vaste mot.
C'est un vaste mot pour, on va dire, une noble tâche, c'est-à-dire qu'on est chargé de veiller à la bonne évolution de l'enfant, à construire avec lui et avec ses parents un projet de vie, en être garant. D'assurer aussi la continuité des relations avec ses parents quand c'est possible. On est aussi positionné en soutien aux assistantes familiales. Donc, comme le disait Madame Bussac, la notion d'équipe est très importante pour qu'on puisse vraiment être porteur pour ses enfants et cohérent entre nous. Voilà. Et donc, il y a un axe de travail important qui est d'assurer le maintien des liens entre l'enfant et ses parents. Donc ça peut être en grande majorité des cas déterminé par le juge des enfants. C'est le juge des enfants qui nous donne les grandes directions, et notamment au niveau de ce qu'on appelle les droits de visite et d'hébergement. Et puis dans certains cas, alors c'est pas la majorité, mais ces enfants peuvent également être confiés au service de l'aide sociale à l'enfance par leurs parents eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle les accueils administratifs.
Donc on a bien vu qu'il y avait deux possibilités, hein. Soit une possibilité de placement en cas de situation vraiment dangereuse pour l'enfant, ou une possibilité de soins à domicile. Là, on va se consacrer du coup sur le placement. Il arrive quand ce placement ?
Donc il arrive quand toutes les autres tentatives d'aide et d'intervention au domicile, dans la cellule familiale, ont trouvé leurs limites et qu'il y a vraiment une notion de danger concernant l'enfant et aussi une notion que les capacités parentales soit sont pas suffisantes, soit n'ont pas pu être mobilisées. Et que du coup, la séparation et la protection de l'enfant via son accueil en famille devient la seule possibilité.
Je voudrais revenir sur le témoignage de Valérie Bussac, qui est assez poignant. Hein. Très clairement, elle dit effectivement, sans les référentes familiales, sans les personnes qui interviennent au sein du département, on n'y arriverait pas en fait, sur certaines situations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment vous pouvez aider justement ces assistantes familiales au quotidien? Quels sont vos leviers d'action?
Oui, donc elles peuvent accueillir les assistantes familiales des enfants qui ont quelques jours, comme quelques mois, comme quelques années. Ces enfants, donc, comme disait Mathieu tout à l'heure, ont subi des traumatismes précoces qui, en général, provoquent des troubles du comportement ou des troubles de l'attachement. Donc, ces enfants, une fois qu'ils arrivent en famille d'accueil, vont en s'installant, s'autoriser à montrer leurs troubles, ce qui peut être compliqué à vivre pour les assistantes familiales qui sont du coup prises dans des enjeux d'une relation et qui ne peuvent pas être à la fois prises dans les enjeux d'une relation et à l'extérieur de cette relation pour pouvoir repérer ce qui s'y passe. C'est là que le rôle du référent est vraiment important pour faire tiers. Justement, elle parlait d'un regard un peu distancé, Madame Bussac. Voilà, pour essayer de comprendre avec elle qu'est-ce qui peut se jouer. Qu'est-ce que l'enfant peut exprimer justement souvent par des attitudes corporelles, pas forcément par toujours des mots, et essayer de réfléchir ensemble sur le bon positionnement à garder pour sécuriser cet enfant.
Alors justement, est-ce que le bon positionnement existe ? Est-ce qu'il y a un bon positionnement qui existe ?
Alors je dirais que déjà je pense que le bon positionnement, il est le fruit d'un travail d'équipe. D'une réflexion d'équipe avec l'assistant familial, avec nos collègues, donc les psychologues, et puis que en fait le bon positionnement, il peut sans arrêt être questionné et adapté. C'est-à-dire que l'enfant, au fur et à mesure qu'il grandit, ne va pas avoir les mêmes manifestations et au fur et à mesure qu'on l'observe, et ça c'est vraiment le travail des assistantes familiales, elle nous donne beaucoup d'éléments d'observation sur le quotidien des enfants. On va se rendre compte un petit peu de ses ressources aussi pour qu'est-ce qu'il comprend de sa situation, qu'est-ce qu'il vit aussi dans le contact avec ses parents et comment justement nous, on doit réajuster sans arrêt éventuellement les droits de visite et le travail qu'on peut mener auprès de lui.
Vos entretiens ou vos échanges avec ces assistantes familiales ou assistants familiaux, parce qu'il y a des hommes aussi, hein, ils ont lieu régulièrement, vous les voyez une fois par semaine, une fois par mois, est-ce que c'est au cas par cas, parce qu'il y a des besoins particuliers ?
Oui, alors je dirais que ça dépend vraiment des situations, parce qu'il y a des enfants, par exemple, qui viennent voir leurs parents au service, dans le cas de visites médiatisées, mais ça je pourrais y revenir, chaque semaine. Donc de fait, on rencontre les assistantes familiales, nous on les aperçoit chaque semaine. Il y a des assistantes familiales qui nous font appel moins souvent. Voilà, donc ça peut être des visites à domicile où on va voir comment l'enfant se comporte au domicile de l'assistante familiale. Ça peut être des rendez-vous au bureau pendant que l'enfant, par exemple, est à l'école, où là l'assistante familiale, elle nous parle vraiment de plus de ses inquiétudes. Ça peut être des échanges téléphoniques, ça c'est nombreux. C'est souvent le cas, et puis ça a été d'autant plus souvent le cas au vu du contexte sanitaire. Voilà, donc je dirais que ça dépend des difficultés de l'enfant, de ses troubles d'attachement et donc de ce qu'il peut mettre en œuvre dans son attachement à la famille d'accueil et qui peut mettre la famille d'accueil en difficulté. Voilà, ça dépend aussi de l'âge de l'enfant et ça dépend aussi de la sensibilité de l'assistante familiale qui peut se sentir plus ou moins mise en difficulté selon les manifestations des enfants.
Donc en gros, il n'y a pas de schéma type dès lors que le placement est fait ?
Il n'y a pas de schéma type et je pense que c'est important justement de pouvoir faire un peu du sur-mesure. Voilà, pour être au plus près et vraiment tisser ensemble en fait.
Combien d'assistantes familiales sont référencées au sein du département et combien de référents suivent justement ces assistantes familiales qui, je le précise, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais relèvent des compétences du département puisqu'elles sont recrutées et formées par le département ?
Alors je dirais qu'il y a environ 200 assistantes familiales au niveau du département. Après, chaque référent à temps plein a en charge 25 enfants. Alors, dans les enfants dont je suis référente, il n'y a pas que des enfants en famille d'accueil, il y a aussi des enfants qui se trouvent en maison d'enfants à caractère social. Mais la majorité sont en famille d'accueil.
Maison d'enfants à caractère social, ça vient compléter le rôle du foyer d'urgence. C'est peut-être important de préciser son rôle.
Oui, c'est-à-dire que quand on accueille, par exemple, des adolescents c'est parfois compliqué de les imaginer en famille d'accueil, parce qu'on on suppose que ça va être compliqué pour eux de s'y installer au vu de leur parcours de vie. Donc on les oriente, ça c'est plutôt le travail du foyer de l'enfance, mais ils sont réorientés par la suite plutôt en maison d'enfants à caractère social. Mais souvent pour assurer un petit peu la continuité des liens avec leurs parents, on nous demande, nous, référents au placement familial, de pouvoir intervenir. Toujours pareil, pour accompagner le lien avec les parents.
Là, vous accompagnez une fois, que ce soit vous ou Mathieu Pereira, les assistantes familiales, une fois qu'elles sont en place, mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit de les recruter? Est-ce que vous êtes aussi associé, puisque c'est un métier qui est très particulier, l'assistante familiale? Vous êtes en mesure de dire oui, je pense qu'elle peut, elle correspond au profil ou pas du tout?
Alors, il y a deux étapes, en fait. Les personnes qui sont intéressées par ce travail doivent d'abord se tourner vers la protection maternelle infantile, qui va faire un peu une évaluation et qui va leur délivrer ou pas un agrément. Ensuite, elles peuvent effectivement se tourner vers l'aide sociale à l'enfance pour être embauchées. Et là, effectivement, elles sont rencontrées. Il y a des réunions d'information et puis après, il y a des rencontres avec les référents, avec le psychologue qui détermine justement si leur profil peut correspondre à ce qu'on attend, nous, des assistantes familiales auprès de ces enfants en difficulté.
Alors justement, qu'est-ce que vous attendez de ça?
Alors, je vais peut-être prendre la question par un autre bout, mais en tout cas, on cherche à ce que l'enfant puisse se sécuriser dans sa famille d'accueil. Alors, vaste programme encore une fois, puisque se sécuriser dans une famille d'accueil, c'est déjà accepter sa situation de placement. Pour accepter sa situation de placement, il faut la comprendre. Quand on est un bébé, c'est compliqué. Voilà. Et pour comprendre et accepter une situation de placement, il faut avoir une relation un petit peu apaisée avec ses parents. Donc ça, je dirais que c'est le deuxième grand axe de mon travail. On passe énormément de temps à travailler avec les parents sur justement leur parentalité. Voilà, c'est-à-dire déjà qu'ils puissent accepter un petit peu leurs difficultés et donc accepter un petit peu le travail de guidance qu'on peut leur proposer. Voilà, et essayer de beaucoup positiver ce qu'ils peuvent apporter à leur enfant pour que les visites médiatisées et les contacts qu'ils peuvent avoir, ça redevienne des expériences positives. Voilà, ce qui est important, c'est que l'enfant qui souvent a été traumatisé d'une manière ou d'une autre au contact de son parent dans sa petite enfance en amont du placement, il puisse un petit peu redécouvrir des expériences positives de contact avec son parent pour se sentir petit à petit à nouveau sécurisé à son contact. Alors ça, c'est un premier pas, en sachant que dans certaines situations, on peut travailler... On imagine qu'il peut y avoir un retour de l'enfant chez son parent, mais ce n'est pas la majorité. Et dans certaines situations, on construit juste sur un bout de parentalité, voilà, et que l'enfant puisse trouver un équilibre entre sa famille d'accueil et les relations avec son parent.
Donc là, comme disait M. Pereira, vous disiez que l'objectif, c'était de répondre aux besoins des enfants. Là, pour le coup, l'objectif est toujours le même, mais ça implique toute la famille.
Bien sûr, ça implique toute la famille, oui. Alors, en sachant que on cherche par tous les moyens, évidemment, à mobiliser les parents, et après avoir évalué sur quel domaine ils sont mobilisables, parce que le but, c'est pas non plus de les mettre en difficulté en leur demandant des choses impossibles. Voilà, donc on essaie déjà d'évaluer ça, et quand on constate, et ça arrive dans quelques situations, où les parents ne sont plus du tout en capacité de se mobiliser parce que eux-mêmes ont eu eux-mêmes une enfance extrêmement carencée avant de devenir parents. Donc quand on fait le constat que ces parents, ils ne sont plus du tout mobilisables pour l'enfant et que c'est un sujet très souffrant pour les enfants, à ce moment-là, on va vers d'autres objectifs de travail.
Oui, du coup, je voulais ajouter certaines choses par rapport au métier d'assistant familial. Et déjà, faire une parenthèse et rendre hommage ici à toutes les personnes qui font ce métier, qui est un métier extrêmement difficile, en tant qu'il engage à la fois la personne de l'assistant familial, mais il engage aussi l'ensemble de sa famille. Et on voit bien que c'est un métier dans lequel l'intimité et la vie professionnelle sont extrêmement liées et ça génère tout un tas de difficultés potentielles. Donc moi, évidemment, je rejoins tout ce qui vient d'être dit par ma collègue là sur le besoin et la nécessité d'accompagner du mieux possible ces personnes dans leurs fonctions et dans l'intérêt de l'enfant. Ce que je voulais dire par rapport à votre question sur le recrutement des assistants familiaux, il faut bien avoir à l'esprit que ce n'est pas un recrutement classique comme dans un métier, je dirais, ordinaire. Il s'agit, en tout cas moi, ce que j'ai à l'esprit quand je procède à un recrutement, il s'agit non seulement évidemment d'avoir à l'esprit la sécurité de l'enfant, quand il potentiellement arrivera dans cette famille, mais il y a aussi quand même la sécurité de la famille elle-même. Je m'explique. Quand je reçois un couple qui vient, c'est-à-dire qu'il y a le candidat ou la candidate accompagnée de son conjoint ou de sa conjointe, j'ai toujours à l'esprit aussi de me dire, est-ce que si on confie un enfant ou des enfants à ce couple, à cette famille, est-ce que je vais les mettre en difficulté ? Est-ce qu'il va y avoir des risques pour cette famille ? Est-ce qu'il va y avoir des risques pour les enfants de cette famille ? Parce que, comme le disait tout à l'heure Valérie, c'est absolument pas anodin que de recevoir un enfant qui a subi des traumatismes et qui ne parle pas avec des mots, et qui va parler avec son corps, et qui va mettre en acte des comportements qui peuvent être très difficiles à réguler dans le cadre d'un accueil familial. Alors la métaphore que je prends, moi, pour parler de ça, j'aime bien prendre la métaphore de l'orchidée. C'est-à-dire que l'accueil familial, c'est potentiellement très beau, c'est probablement le soin le plus adéquat, et ça la littérature l'a bien renseigné, le soin le plus adéquat qu'on peut proposer à un enfant qui a des troubles de l'attachement, mais comme l'orchidée, c'est extrêmement vulnérable. Et même parfois, quand il y a toute une équipe qui soutient, quand tout est pensé, quand on a le sentiment que ça va tenir, il y a quand même des choses qui émergent et qui le rendent soit complexe, voire même qui conduisent à la fin d'un accueil. Donc, la phase du recrutement, c'est vraiment le moment où on commence à faire prendre conscience à la personne qu'on va prendre soin d'elle. Et ça, moi, je le dis clairement aux candidats. Je leur dis, c'est pas un recrutement anodin. On reprend évidemment les motivations, etc. Je rebalaye tout leur parcours pour voir si eux-mêmes ont subi des traumatismes et puis comment ils le vivent, parce que c'est pas n'importe quelle personne qui va candidater sur ce type de poste. Attention.
C'était ma prochaine question. Justement, on a parlé des attentes, mais aussi le profil me semble intéressant. D'en parler, quel est le profil de ces candidats au poste d'assistants familiaux ?
Je dirais que, comme dans tous les métiers relationnels, c'est quand même des personnes qui ont ressenti à un moment donné de leur histoire le besoin de venir en aide aux autres. Donc ça veut dire que c'est pas n'importe quel type de personne, et ce sont des personnes qui ont en général un profil d'attachement, pour revenir sur la question de l'attachement, qui est singulier. C'est des personnes qui trouvent du plaisir, je pense, dans le fait, et du réconfort, peut-être même dans le fait d'aider un autre, en l'occurrence un enfant. Donc la question, c'est comment on va pouvoir identifier dans le profil d'un candidat ou d'une candidate quelles sont les forces de la structure familiale, mais aussi quelles en sont potentiellement les fragilités, et comment après, dans l'accompagnement qui va être proposé, comment on va pouvoir soutenir tout ça.
J'allais ajouter que ce qui est très important, c'est de permettre aussi aux futurs assistants familiaux de pouvoir dire s'il y a certaines problématiques qui leur font peur aussi, sur lesquelles elles ne se sentent pas d'accueillir un enfant. Ça, c'est quelque chose qu'on a en tête, justement, quand on oriente les enfants. Au vu des difficultés et des troubles manifestés par l'enfant, on peut se dire aussi que la rencontre se fera peut-être plus facilement avec tel ou tel type d'assistant familial.
Et du coup, tout ça, c'est évalué en collaboration, en étroite collaboration avec les psychologues ou les aidants.
Oui, Oui, on a des réunions d'équipe chaque semaine, voilà, qui sont hyper importantes pour nous, pour justement voilà, nous re-questionner, réajuster et faire du lien.
Si on est intéressé justement pour candidater au poste d'assistant familial, où est-ce qu'on peut s'adresser pour avoir plus d'enseignements?
Donc je disais tout à l'heure, la première étape, c'est de s'adresser à la protection maternelle infantile qui va faire une évaluation en vue de délivrer un agrément. Et une fois qu'on a cet agrément, on peut candidater, par exemple, au service de l'aide sociale à l'enfance.
Ok. On peut le faire dès à présent, tout le temps, 24 heures sur 24?
Quasiment, je dirais, dans les horaires quand même d'ouverture du service de protection maternelle infantile.
Ok.
Alors oui, peut-être c'est important d'ajouter qu'effectivement, voilà, comme disait Mathieu, un accueil familial, ça peut être vraiment une ressource énorme pour un enfant, pour l'aider à bien grandir et qu'il en émerge des belles réussites. Mais cependant, actuellement, on est en manque d'assistants familiaux. Donc, il y a aussi une campagne en vue de rendre ce travail plus attractif. C'est un travail difficile, mais je pense qu'on ressent quand même que la plupart de nos assistants familiaux sont plutôt épanouis. Et qu'on essaie en tout cas de les soutenir et de travailler en lien étroit, parce que ça, c'est vraiment très important pour tout le monde.
Donc pour tous les auditeurs qui nous écoutent, si vous êtes intéressés justement à candidater ou à ce poste d'assistant familial, si vous voulez simplement plus de renseignements, il faut s'adresser au service PMI de la Haute-Loire, c'est ça, protection maternité infantile.
Protection maternelle infantile.
Maternelle infantile, j'étais pas loin. Merci en tout cas de votre intervention. J'aimerais maintenant me tourner vers Séverine Adrien.
Bonjour.
Voilà, bonjour. Donc vous êtes responsable du service TISF au sein de l'ADMR de Chadrac, c'est ça?
C'est ça.
Quelle est votre mission au quotidien, votre métier, si vous devriez vous présenter en quelques mots?
Alors le métier, la plupart du temps, on intervient en complément justement des mesures judiciaires. On intervient uniquement au domicile des familles.
Voilà. Donc là, le placement n'est pas engagé.
Il y a au domicile des familles en soutien à la parentalité. Après, on a un autre volet, c'est les visites accompagnées.
D'accord.
Donc,
okay.
Après, voilà, je vous l'expliquerai un peu plus en détail. Donc, quand il y a des interventions à domicile, on est sollicité soit par la PMI, soit par l'ASE. Et donc, à ce moment-là, avant la première intervention... la TISF va au domicile avec ou la péricultrice ou l'assistante sociale pour remplir un contrat d'objectif, voilà, pour dire eh ben, pendant les 6 mois d'intervention, qu'est-ce qu'on va travailler pour parvenir à aider cette famille avec des enfants.
Vos champs d'action, du coup, comment vous pouvez aider concrètement?
Donc c'est souvent à travers du soutien scolaire, à travers d'aider à poser des limites, poser des règles de vie, faire des activités, beaucoup de socialisation, parce que beaucoup, les enfants sont parfois à l'intérieur et en bas d'activité. Les parents n'osent pas les amener au parc, les amener faire du vélo. Donc aussi, c'est à travers des aspects comme ça. Aussi, on prépare l'arrivée d'un bébé. On est là aussi pour soutenir les familles quand le bébé est arrivé, pour les conforter un peu dans leurs compétences, pour les rassurer vraiment.
Donc on est vraiment sur des tâches quotidiennes qui peuvent sembler lambda, mais en fait, ils ne le sont pas
voilà.
tant que ça.
Voilà, c'est ça. Et même voilà, dans les actes de la vie quotidienne, aider à préparer des repas équilibrés, aider à ranger un logement, voilà, c'est vraiment dans des axes de la vie quotidienne.
Vous êtes disponible ce soir, vous pourriez venir chez moi pour...
ça, si c'est défini dans le contrat. Voilà, ça c'est... ce qui
moi,
est aussi...
je pense qu'on devrait mettre en place voilà. un contrat.
Ce qui est aussi dans les missions des TISF, c'est voilà, de travailler dans des horaires atypiques. Elles peuvent des fois débuter le matin à 7h30 pour participer au réveil et à préparer les enfants pour aller à l'école. Ou également le soir, retour de l'école, les devoirs, faire le bain et préparer les affaires pour le lendemain. Donc aussi, voilà, c'est vraiment des horaires atypiques.
Vous,
Vous parliez de contrat, donc j'imagine que forcément il y a une implication entière des parents, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire à la place des parents, mais de faire avec les parents.
Voilà, avec, c'est toujours avec les parents. C'est de la suppléance, voilà. C'est apprendre à faire avec eux, c'est une transmission de savoir, de savoir-faire en fait.
Et là, pour le coup, sur ces tâches quotidiennes lambda, enfin, qui ne le sont pas tant que ça, là, pour le coup, on envisage peu à peu, en tout cas, le retour à une vie familiale sans TISF, sans soutien TISF, ça fait partie des objectifs qui sont mis dans le contrat ?
Ça peut. Oui, oui, oui. En principe, les contrats ils sont donnés sur une base de 6 mois.
D'accord.
Au bout de ces 6 mois, mais même durant les 6 mois, il y a des bilans assez réguliers. Et au terme de ces 6 mois, il y a un bilan qui est fait. Et là, on reprend tous les objectifs et on voit si c'est acquis ou en cours d'acquisition ou pas du tout atteint.
Si ce n'est pas acquis, on renouvelle le partenariat avec vous.
Oui.
OK. Et là, pour le coup, sur ce genre de situation, le placement n'est pas envisagé.
Ça peut, parce que, les TISF, elles observent leurs interventions et elles peuvent aussi relater des informations préoccupantes et après on les fait remonter.
Elles peuvent délivrer. Ça peut arriver.
Et comment elles sont formées, ces TISF ? Est-ce que c'est le département qui prend en charge justement la formation de ce métier très spécifique quand même ?
Elles peuvent être formées soit avec des fonds de Pôle emploi ou sinon des fonds propres. Et donc il y a des centres de formation à Saint-Jean-Bonnefonds dans la Loire, à Clermont-Ferrand.
Voilà. Okay.
Et on est vraiment, enfin, il y a un gros problème de recrutement parce que vu que c'est des horaires atypiques, c'est quand même compliqué comme métier de passer d'une famille à l'autre, d'une situation à l'autre. Donc c'est usant. Et voilà, on a un problème de recrutement, les centres de formation sont de moins en moins complets, on est vraiment en difficulté par rapport à ça.
C'est une formation de combien de temps à peu
Deux
près
ans.
Deux ans.
Oui, d'accord. Avec des stages.
Ok. Et l'idée, c'est vraiment d'aller au soutien des familles en difficulté sur les tâches quotidiennes.
C'est ça.
Okay.
C'est ça.
Vous nous parliez tout à l'heure d'un deuxième volet de votre travail, de ce que j'ai compris, les visites médiatiques.
Non, nous, c'est les visites accompagnées. Voilà.
Okay.
Donc c'est aussi... ça se passe dans les familles. Donc là, la TISF, parfois, elle fait les trajets avec l'enfant pour l'amener dans la famille. Elle peut être présente durant toute la visite.
D'accord. Là, c'est si l'enfant est placé.
Oui, et si l'enfant est en famille d'accueil. Oui.
C'est important de préciser.
Ou en MEX, ça arrive aussi.
OK. MEX ?
Maison d'enfants à caractère social.
OK. Comme on a dit tout à l'heure. OK. Donc là, ça va aller dans l'accompagnement dans la famille biologique, c'est ça ?
Oui. C'est ça. Okay. Voilà, c'est pour réapprendre à tisser du lien, rassurer l'enfant et rassurer aussi la famille parce que ça amène un chamboulement, le fait qu'il y ait de nouveau l'enfant qui vienne à domicile. Donc voilà, c'est de la réassurance et c'est maintenir aussi le lien.
Et là, le retour à domicile est envisagé ou pas forcément ?
Ça peut être envisagé.
Ça peut ?
Oui, oui, oui.
Ok. Écoutez, je vous remercie en tout cas de nous avoir éclairé à ce sujet des métiers du quotidien qu'il faut valoriser, qui sont importants de valoriser, oui. Et qui font partie de la raison pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, pour valoriser, mettre en lumière, vulgariser le travail de l'aide sociale à l'enfance et de ses aidants, de ce personnel, de ses 50 agents du quotidien et bien plus encore. Alors, j'aimerais vous poser une question à tous pour clôturer un petit peu cette émission en ouverture. Mais avant, j'aimerais vous faire écouter un son d'une enfant placée de l'ASE, enfin encore, mais qui arrive au terme de sa majorité, c'est ça ? Donc 18 ans, puisque là, on a parlé de l'enfant, mais qu'est-ce qui vient de l'adulte placé, de l'enfant placé auparavant ? C'est la réponse à cette question avec ce son de Dounia.
Bonjour, moi c'est Dounia, j'ai 17 ans, voilà. Ça fait un an que je suis en foyer ici, à Valls. Ça fait depuis mes 9 mois que je suis placée. Au début, on arrive, on ne sait pas trop où on est, tout ça, voilà, c'est un peu compliqué parce que ça reste un foyer d'urgence. Sinon, c'est cool, enfin, franchement. Moi, ce que j'aime ici, c'est genre, les éducs, ils sont cool, franchement. C'est quand même comme une deuxième famille, en fait. Mais après, le petit truc qui est un peu chiant, c'est qu'il y a des arrivées, moi, je suis là, et il y a des départs, donc moi, je reste toujours ici. Mais je me dis un jour, ce sera mon heure aussi. C'est ça qui est cool.
Qu'arrive-t-il à ces enfants qui s'apprêtent à devenir majeurs et qui vont être un peu, alors je ne sais pas, livrés à eux-mêmes en tout cas. Est-ce que ces enfants vont être livrés à eux-mêmes à partir de 18 ans ou est-ce qu'il y a des supports d'aide? Et si oui, quels sont les dispositifs apportés?
De proposer à ces jeunes qui arrivent à la majorité ce qu'on appelle un contrat jeune majeur. Donc c'est de façon contractuelle avec eux, donc il faut qu'ils soient demandeurs et qu'ils adhèrent à cette proposition. Et à l'intérieur de ce contrat jeune majeur, on peut leur proposer un accompagnement éducatif encore avec un éducateur qui peut travailler avec ce jeune autour d'un projet professionnel, par exemple, la recherche d'un emploi, travailler autour de la question du logement, accès au logement, se maintenir dans son logement. Et puis ça peut être aussi au travers d'une aide financière, si effectivement c'est un jeune qui soit en rupture avec ses parents, soit qui n'a pas la possibilité, ou dont les parents n'ont pas la possibilité de l'aider.
Parce que du coup, c'est important de le préciser, à 18 ans, ces enfants sortent des foyers, sortent des familles d'accueil, pas forcément?
Oui, tout à fait. Généralement, c'est ce qui se passe, en tout cas, pour ce qui est notamment des accueils en maison d'enfants, ou par exemple au foyer de l'enfance, s'il était à ce moment-là au foyer de l'enfance. Par contre, pour certains d'entre eux qui sont accueillis chez des assistants familiaux, il y a parfois aussi la possibilité de prolonger cet accueil chez l'assistant familial pour continuer à accompagner ce jeune jusqu'à notamment ses 21 ans. Et puis ça permet de maintenir un lien autour de ce jeune, notamment quand ils sont en totale rupture familiale. Ça permet aussi de continuer à l'accompagner dans les démarches qu'il va devoir connaître au moment de sa majorité, qui sont celles de notamment la construction d'un projet professionnel et puis d'accéder à une autonomie.
On se rend compte aussi l'importance du soutien du personnel attribué à la protection de l'enfance. Pour devenir, on se rend bien compte que c'est important pour elle. Comment on peut garder ce lien sans qu'il se sente encore une fois délaissé à sa majorité?
Alors, vous savez, ça dépend là aussi des situations. Hein. Vous avez parfois des jeunes qui ont été placés pendant un certain nombre d'années et qui arrivent à leurs 18 ans avec l'envie aussi de se séparer de l'aide sociale à l'enfance et puis d'aller voir voler de leurs propres ailes ou peut-être aussi d'aller renouer parfois avec leurs parents quand il y a eu une rupture de contact ou en tout cas quelque chose qui était assez distendu avec eux. Donc c'est très différent suivant les situations. Et puis on a des enfants qui sont demandeurs d'aide hein, et qui nous disent ben voilà, je vais avoir 18 ans, ce qui est notamment le cas de Dounia que vous avez entendu tout à l'heure, qui est encore au foyer de l'enfance et qui dit bon, mais vous n'allez pas me laisser toute seule à 18 ans, comment vous allez faire et qu'est-ce que vous allez me proposer? Et là, c'est là que peut intervenir le contrat jeune majeur qui peut permettre de l'accompagner encore.
On se rend compte que du coup, par le biais de ce contrat, il y a des sortes d'appels à l'aide de ces jeunes?
Oui, ça peut être un appel à l'aide, vous le dites comme ça, mais ça peut être simplement une prolongation de l'aide qu'on a portée de manière à conduire ce jeune vers l'autonomie.
Alors, comment faites-vous le lien après avec les partenaires quoi, qui vont prendre la relève?
On travaille avec un certain nombre de partenaires hein, qui sont très différents, suivant aussi la situation du jeune. On peut travailler avec des partenaires du handicap si c'est un jeune effectivement qui a un problème de déficience ou qui a un handicap. On peut travailler par exemple avec la mission locale qui s'adresse aussi à tous les jeunes. Donc voilà, on a une collaboration avec d'autres partenaires qui peuvent les accompagner autour du projet professionnel, autour de la recherche par exemple d'un apprentissage.
Comme on a une cellule qui recueille les informations préoccupantes, est-ce qu'au sein du département est envisagé ou on a déjà une cellule qui permet justement de pouvoir savoir ce que deviennent ces jeunes qui dépendaient de l'ASE?
Non. La réponse est non. On n'a pas, pas d'études et on n'a pas d'observation de ce qui se passe après, sauf à recroiser les jeunes sur d'autres demandes ou d'autres situations. Donc c'est vrai que c'est pas très satisfaisant parce qu'on n'a pas le fil rouge à un moment donné, au moment de la majorité ou au moment de la fin du contrat jeune majeur, à un moment donné il s'arrête. Alors Pourquoi ils s'arrêtent ? Parce que l'objectif, quand même, c'est de rendre ces jeunes autonomes et de les amener vers une autonomie qu'ils auraient eue s'ils avaient été dans leur milieu familial ordinaire, sans accompagnement, sans suivi. Un jeune, à un moment donné, il faut qu'il vole de ses propres ailes. Et la majorité... Alors, aujourd'hui, on trouve que 18 ans, c'est très jeune, parce qu'on n'est pas sorti du système des apprentissages scolaires ou même des apprentissages de la vie. Hein. On considère aujourd'hui que même 21 ans, c'est très jeune, et que la plupart du temps, toutes les politiques jeunesse, elles vont jusqu'à 25 ans. Mais on a des relais, là. On a les missions locales qui peuvent intervenir et prendre le relais sur des accompagnements, soit des accompagnements de formation ou professionnels, et même des accompagnements sur le logement. On a des associations aussi sur le territoire qui, avec un dispositif d'accompagnement des jeunes dans le logement spécifique, on peut faire appel à ces associations. Et du coup... poursuivre, mais poursuivre avec une autre forme, d'autres intervenants, des intervenants de ce qu'on appelle du droit commun et non plus de l'aide sociale à l'enfance. Et du coup, on amène par cette intervention de droit commun à une certaine autonomie et à une normalisation, entre guillemets, de la prise en charge ou de l'accompagnement social qui peut être fait.
Et après, si je peux juste ajouter, on a aussi des jeunes qui reviennent voir les travailleurs sociaux de l'aide sociale à l'enfance, des jeunes qui reviennent aussi voir leur famille d'accueil ou les maisons d'enfants dans lesquelles ils ont été accompagnés. Hein. Moi, j'ai en tête, et on a tous en tête, les familles d'accueil qui, par exemple, organisent encore Noël avec certains jeunes qu'ils ont eu du temps de leur minorité. Hein. Les liens ne s'arrêtent pas forcément comme ça. On a plaisir à les revoir et eux ont plaisir aussi à venir nous montrer comment ils ont évolué, comment ils ont grandi, ce qu'ils ont pu construire et ce qu'ils sont devenus. Et on a de belles réussites en protection de l'enfance aussi.
On va s'arrêter là. Je vous remercie en tout cas d'avoir été tous au rendez-vous pour témoigner de l'importance de ces métiers, l'importance de cette compétence menée par le département qui est la protection de l'enfance, de tous ces dispositifs qui s'y apparentent. Je vous remercie en tout cas de vous avoir rendu présent pour cette émission qui est importante. Je vous remercie en tout cas. Merci.
Merci.